Le réveil culturel. Toufik Hakem.
C'est enfin l'été, nous sommes le mercredi 20 juin, bonjour tout le monde. L'été et ses orages, l'été et ses sorties nocturnes pour aller voir des films. Deux films au programme du Réveil culturel, deux films qui sortent aujourd'hui. À genoux les gars d'Antoine Desrosières et puis un autre film tout aussi physique, même s'il nous emmène plutôt du côté de la Thaïlande. Une prière avant l'aube de Jean-Stéphane Sauvert. Ils sont tous les deux nos invités ce matin. Le Réveil culturel est une émission préparée avec Anaïs Isbert, réalisé par Vincent Abouchard, avec à la technique Bruno Mourlan. Et en plus, aujourd'hui, nous aurons la visite de Michel Simon en fin d'émission. Merci d'être sur France Culture.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Antoine Desrosières.
Bonjour.
À genoux les gars, ou la drôle d'initiation amoureuse de deux adolescentes de banlieue, Rim et Yasmina, excellemment campées, il faut le dire tout de suite, par Inès Chanty et Souad Arsan, qui sont par ailleurs les co-scénaristes et les dialoguistes de ce film. Donc c'est l'histoire de deux jeunes ados, de leurs deux amoureux, de la culture sexuelle d'aujourd'hui, pour ne pas dire de la culture cul, de cette génération élevée avec le porno disponible en 2-3 clics. C'est une comédie joyeuse, mais qui traite de sujets qui mettent mal à l'aise la société française aujourd'hui. On peut le dire tout de suite, Antoine Desrosières.
Oui, oui, c'est vrai.
Parce que ça parle de banlieue, ça parle de jeunes Français d'origine maghrébine, ça parle aussi de la pauvreté, ça parle du machisme, il y a même un chantage à la sextape.
Alors, en fait, si embêtant, j'ai envie de me porter en faux de tout ce que vous dites.
Faites, cher ami.
Oui, j'ai envie. Parce que, en fait, c'est un film donc sur le consentement et les différentes manières de le comprendre, suivant qu'on soit fille ou garçon, suivant les filles et suivant les garçons. C'est un film sur un chantage à la sextape, on peut bien le dire. Et je crois que ce qu'on a vu dans l'actualité et aussi dans la vie, c'est que ces problèmes ne touchent pas seulement un milieu social, un âge, les gens qui sont dans un quartier particulier, dans une religion ou dans un coin du monde. Il y en a à tous les âges, on l'a vu partout. Le film a été tourné à Strasbourg intramuros, pas spécialement dans un quartier populaire, que si vous le regardez bien, on ne voit jamais que ça se passe dans un quartier plus populaire qu'un autre. Je défends que la façon dont les personnages parlent, qui vous semble une façon populaire, est simplement la façon de parler des jeunes aujourd'hui, de tous les milieux, y compris à Neuilly. Et donc, je pense qu'en fait, notre regard est biaisé, que dès qu'on voit un maghrébin, on a l'impression qu'on parle des banlieues. C'est pas le cas.
Donc pour vous, c'est une histoire sur la jeunesse française.
Absolument, et même mondiale.
Dans la France d'aujourd'hui, quand vous représentez ce genre de personnages, ça peut être perçu comme si c'était des personnages tout à fait normaux. Je ne suis pas d'accord avec vous, Antoine Desrosières.
Les maghrébins ne sont pas normaux, mon Dieu. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire?
Ah bah, dans la France d'aujourd'hui, oui, non. Sauf à considérer qu'il n'y a jamais eu de problème de discrimination, que le rapport au sexe, à la pornographie, le rapport à l'autre est analysé d'une manière tout à fait équitable, qu'on vienne d'un milieu bourgeois ou d'un milieu populaire. J'ai pas l'impression.
Je vais vous répondre à ça. Bien sûr qu'il y a de la discrimination. Il se trouve simplement que c'est pas le sujet de ce film et que c'est pas parce qu'on montre des maghrébins que forcément le sujet du film devient la discrimination. Et je pense que le film parle. J'avais fait un premier film il y a 3 ans qui s'appelait Aramiste et qui parlait du lien qu'il y avait entre interdit culturel et frustration. J'insiste bien sur le fait que dans interdit culturel et religieux, toutes les religions sont concernés. Il n'y a pas une seule religion qui valorise la sexualité hors mariage. Aujourd'hui, je travaille sur le lien qu'il y a entre frustration et violence, en essayant de réfléchir, au travers de ce diptyque, sur le lien qu'il y a entre, finalement, les interdits culturels, en général, de toutes les cultures, parce qu'elles me semblent communes de ce point de vue-là, et la violence, avec l'utopie d'un monde où il y aurait moins d'interdits et moins de violence. À partir de là, c'est ça mon sujet, et je ne pointe pas particulièrement une communauté, juste parce que c'est des gens de cette communauté qui l'interprètent. Est-ce que, voilà, c'est ça mon point de vue.
Alors, comment vous avez travaillé avec Inès Chanty et Souad Arsan?
Alors, en fait, j'avais mis en place un petit laboratoire de travail avec elle sur ce film précédent, qui s'appelait Aramiste, qui avait un dispositif qu'on a repris et qui est très plaisant, qui est tout simplement de faire beaucoup de répétitions. Au cours des répétitions, je leur propose des situations très simples, et je leur demande d'improviser à partir de ces situations et comme elles ont été choisies.
Cette histoire du chantage à la sextape, cette histoire qui met en scène deux jeunes adolescentes vis-à-vis de leur petit copain du moment, de comment concevoir une relation amoureuse ou une relation sexuelle, cette histoire, elle vient de d'où
d'un alors, comme je vous le disais...
D'un témoignage.
Oui, c'est un témoignage vécu.
C'est vous-même, Antoine Desrosières, en tant que réalisateur, qui vouliez partir de ce fait divers pour faire un film, ou c'est venu de vos comédiennes qui sont par ailleurs scénaristes et dialoguistes, co-scénaristes et dialoguistes du film.
C'était une proposition que je leur ai faite à la suite du film précédent qu'on avait fait, qu'effectivement on cherchait à retravailler ensemble, tout simplement parce qu'on avait eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble, mais on voulait avoir un propos nouveau, un projet nouveau, et il nous semblait que cette histoire était... épouser nos combats ensemble, c'est-à-dire que...
Vos combats ?
Oui, nos combats, les miens, ceux de Anne-Sophie Nanqui, qui est la co-scénariste avec laquelle j'ai travaillé avant que n'arrive Inas et Swad et qui est arrivée rester avec moi jusqu'au bout, et ceux de Inas et Swad qui sont, à très juste titre, extrêmement choqués par les violences faites aux femmes, tout ce qu'elles doivent subir au quotidien, toute cette inégalité dans le rapport à la liberté entre les filles et les garçons. Et donc, effectivement, cette histoire était parfaite pour porter un regard là-dessus et pour nous permettre de travailler à notre manière.
Si moi j'ai le droit de le faire, toi aussi t'as le droit de le faire, t'inquiète pas, on fait que du Harlem.
Tu fais quoi avec lui ?
Oh, l'important c'est pas ce qu'on fait, c'est ce que ça me fait.
Et ça te fait quoi ?
Si le ciel vous tombe dessus,
si le ciel vous tombe dessus,
c'est parce que vous l'avez voulu.
Je sens un gros.
Yeah. Ça a l'air bien, hein. Est-ce que je serais obligée de parler anglais ?
Un extrait du film « À genoux les gars » d'Antoine Desrosières qui sort aujourd'hui.
Va danser, oui, va danser sans moi.
Sans moi, oui, sans moi.
T'amuser, va t'amuser sans moi.
Sans moi, oui, sans moi.
Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film d'Antoine Desrosières, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a laissé personne indifférent quand il a été présenté à Cannes dans le cadre d'un certain regard. On en parle aujourd'hui dans le Réveil culturel, mais pour les critiques, il faut attendre vendredi. Dans la dispute, vous aurez les pour et les contre ce film.
The reason why you have a rupture is because of boxing and the massive abuse of drugs. Any more trauma, you could bleed to death.
It's all I've got.
Un autre film qui sort aujourd'hui, c'est celui de Jean-Stéphane Sauvert, qui est avec nous ce matin aussi. Une prière avant l'aube, qui retrace l'histoire vraie d'ailleurs d'un Anglais, Billy Moore, un jeune boxeur, qui va être incarcéré dans une prison en Thaïlande pour détention de drogue. Donc c'est un film de genre, on peut le dire. C'est un film de prison et c'est un film de combat parce que il va s'en sortir en passant par un combat. Jean-Stéphane Sauvert, qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire vraie qui a fait l'objet d'un livre qui a été un best-seller, je crois.
Ouais, je crois que ce qui m'a plu au départ, c'est vraiment son parcours, quoi, la vie de Billy Moore, qui est cet Anglais de Liverpool et qui s'est en effet reconstruit et a trouvé sa liberté en étant enfermé dans une prison en Thaïlande et en découvrant la boxe thaï comme un espèce d'exutoire un peu. Et se trouver lui-même dans cette prison et combattre un peu tous les jours pour survivre, pour sa survie, et puis finir par devenir qui il est ou qui il avait envie de devenir, quoi. Je pense que c'était un parcours vraiment humain, une histoire humaine, plus que ce que vous disiez, un film de genre, quoi. Je pense que c'est avant tout ce personnage qui m'a séduit pour raconter son histoire et faire ce film.
Où avez-vous tourné ce film, une première avant l'aube ?
On a tourné en Thaïlande, dans une prison thaïlandaise, une prison qui venait d'être abandonnée, mais dans laquelle j'ai remis des prisonniers, ils sont que des ex-prisonniers. Tous les comédiens du film sont des non-professionnels, mais dans cette expérience de vie.
Et vous leur avez demandé quoi ? De restituer un peu la vie qu'ils ont connue en prison quand ils étaient incarcérés ?
Ouais, exactement, parce que moi j'ai pas l'expérience de la prison en Thaïlande, en tout cas pas encore, et donc j'avais besoin de leur expérience. Je voulais faire un film authentique, réaliste, et je voulais pas raconter juste avec moi mes idées ou mes fantasmes de ce que peut être une prison en Thaïlande, la vie là-bas. Donc il y avait une importance donnée au réalisme, et de travailler avec eux, parce que eux avaient aussi, en tant qu'ex-prisonniers, envie de raconter leur histoire. Ils ont passé tous 10-15 ans, que ce soit pour drogue, ou pour tentative de meurtre, ou pour meurtre. Et donc, d'un coup, de faire un film, c'est aussi une façon pour eux de raconter leur vie, raconter leur expérience. C'est un exutoire, c'est une thérapie, et j'avais envie de faire ce travail avec eux. Pour le film.
Alors cette semaine sur France Culture, on parle beaucoup des prisons, mais plutôt en France, dans Entendez-vous l'écho et dans La fabrique de l'histoire, entre autres. Là, c'est quoi qui fait la différence, d'après vous, Jean-Stéphane Sauvert, entre une prison en Thaïlande et une prison en France?
Je crois le fait principalement que toutes ces prisons sont surpeuplées, c'est-à-dire que c'est des grandes cellules qui contiennent 150-200 personnes, et les gens vivent tous ensemble dans cette même cellule, donc il y a une promiscuité qui crée forcément une vie de prison différente que celle qu'on peut avoir en France, une promiscuité et une violence inhérente à cette promiscuité. Après, avec tous ces prisonniers avec lesquels j'ai travaillé, à chaque fois je leur demandais qu'est-ce qui vous reste de cette expérience en prison. Tout c'était vraiment une espèce de très forte relation humaine, camaraderie, fraternité qui est née de cette vie en prison entre eux, quoi. Donc c'est à la fois surpeuplé, mais à la fois c'est de ça que naît quelque part un espoir pour eux. Et une possibilité un peu de passer les années de façon plus simple, peut-être, que d'être isolé dans une cellule.
Et vous montrez comment ils inventent une autre société à l'intérieur de cette prison, avec des règles.
Ouais, parce qu'ils créent chacun. Moi, après, si je voulais, il y a vraiment différents secteurs dans le film, qui sont le secteur, on va dire, ce qu'on appelle les samouraïs, qui sont les chefs de gang, et qui, eux, sont plus dans le trafic de drogue, et la drogue dans la prison, et tout ça. Et puis ensuite, il y a un autre groupe, une autre communauté dans laquelle va Billy Moore dans le film, qui sont les boxeurs, qui sont, eux, différents, mais qui sont aussi une espèce de communauté qui va aider Billy à s'en sortir à travers la boxe.
Une prière avant l'aube, quand je dis que c'est un film de genre, vous refusez cette définition, Jean-Stéphane Sauvert, et pourtant, on est dans une prison et on a droit à toutes les scènes qu'on attend d'un film tourné dans une prison.
Oui, ça peut être. Après, ça peut être considéré comme un film de genre. Ouais, pourquoi pas. Après, je pense que ce qui m'intéressait, c'était de détourner un peu le film de genre pour en faire, en tout cas, de voir ce que le film de genre pouvait être dans la réalité, c'est-à-dire le confronter la fiction à une histoire réelle. Comment ce qu'on nous donne au cinéma, toutes ces scènes, en effet, qu'on voit régulièrement dans un film de prison, un film de boxe, quelles peuvent être ces scènes dans la réalité? Donc, c'était jouer avec les codes du film de genre, mais pour essayer d'en faire quelque chose de peut-être plus réaliste et plus immersif, en tout cas, parce que ma volonté, c'était vraiment que le spectateur soit vraiment plongé dans cette prison, comme a pu l'être Billy Moore quand il est arrivé.
On est plongé dans la prison, mais on est aussi admiratif devant les prisonniers. Vous avez une façon très sensuelle de filmer les corps des hommes.
Ouais, c'était une histoire de corps aussi, ce film, je pense, parce que comme il n'avait pas le langage en arrivant dans cette prison, les prisonniers, eux, parlent pas anglais. Donc, à un moment, ils ont dû trouver un langage et un moyen de communiquer qui a été par les corps. Et ça m'intéressait. Chacun avec des corps différents, que ce soit les corps tatoués des membres de gang, ou les corps, après l'entraînement, des boxeurs. Chacun racontait sa propre histoire.
On dirait que vous les aimez, ces corps, Jean-Stéphane Sauvert.
Moi, je pense qu'il faut
vous les désirez
filmer,
même. Ouais. Oui, vous les désirez même. C'est-à-dire, il y a un côté même homosexuel très présent dans votre film. On pense beaucoup plus à Querelle de Brest, filmé par Fassbinder depuis Jean Genet, qu'à un autre film de prison, par exemple.
Ouais, mais je crois que l'homosexualité, en étant très présente dans la prison, en tout cas dans la prison thaïlandaise, c'est-à-dire qu'ils avaient un rapport qui pouvait être l'homosexualité, en tout cas de proximité, ce qui était assez étonnant, parce qu'on n'attend pas forcément de ça des prisonniers thaïlandais, mais même quand ils étaient dans les cellules et tout, on sent que les corps sont très proches, les corps se touchent, les corps se confrontent. Et donc ça m'intéressait de restituer ça, quoi. Et la seule, on va dire que dans le film, c'est quasi, c'est un film où il y a que des hommes, même le personnage féminin est un ladyboy. Donc en effet, il y a cette question de l'homosexualité, en tout cas comment ça peut être de se retrouver à un moment entouré que d'hommes pendant 3 ans, ce qui a été le cas pour Billy, et comment d'un coup les liens se créent comme ça entre tous ces corps.
Billy,
you fight?
Boxing.
Boxing. มันไปชกมวยมาเว้ย
Hey, I want to train. I'm a boxer. I can show you. I can fight. I need to fight.
around to qualify for national tournament. If you don't represent our prison, say it now.
I've got no family, no money. Just give me this one chance. I want to fight.
C'était un extrait de la bande-annonce du film de Jean-Stéphane Sauvert, notre deuxième invité ce matin, Une prière avant l'aube, c'est le titre du film. Une prière avant l'aube a été montré à Cannes, est-ce que ce film va revenir en Thaïlande ?
Ben, il va revenir via Netflix Asie,
ouais.
Qui a acheté le territoire de l'Asie, donc il va le sortir en Thaïlande, mais pas au cinéma. Il n'y a pas de sortie cinéma thaïlandaise, mais uniquement via Netflix.
Pourquoi ? Pour des histoires de censure ou...
Ils n'ont pas voulu, je pense que c'était compliqué. C'est-à-dire que le problème, c'est que Netflix achète un peu toute l'Asie, et donc après, de dissocier les différents pays, on n'a pas réussi à avoir ça. On a essayé de le sortir vraiment au cinéma en Thaïlande, parce que ça aurait été intéressant. Malheureusement, on n'a pas eu l'autorisation de Netflix par rapport à ça.
On a parlé de prison, mais on n'a pas parlé des matchs de boxe. Alors, est-ce qu'on peut pas parler de boxe thaï ? C'est quoi le muay thaï ?
La muay thaï, ouais, c'est boxe pieds et poings, c'est-à-dire qu'on utilise les huit membres et tout ça pour combattre, pas juste les poings, mais aussi les pieds. C'est la muay thaï, ouais, c'est la boxe thaïlandaise. C'est ouais, qui utilise, c'est-à-dire qu'on peut combattre avec les pieds et tous les coups sont permis, beaucoup plus qu'en boxe anglaise, quoi.
Et comment on filme ces combats ?
Ben, j'avais envie de les filmer dans la longueur, plus comme un documentaire, comme quelque chose de réaliste et avec une caméra toujours au centre du ring. Et d'organiser les combats comme des chorégraphies. Il y a, on va dire, trois combats dans le film. Et à chaque fois, travailler un peu sur la longueur et sur la chorégraphie et sur le ressenti un peu du boxeur. D'essayer de montrer aussi la brutalité de la boxe et pas juste la boxe comme un divertissement. Mais ce que ça peut aussi provoquer d'être au centre du ring et de se prendre des coups.
Alors, pour filmer ces scènes de combat, est-ce que vous vous êtes inspiré d'un cinéma de genre Jean-Stéphane Sauvert, où ce qui était excitant pour vous, c'était d'inventer une nouvelle manière de filmer cette chorégraphie de la boxe thaï ?
Ben ouais, parce que c'était pour moi un challenge au départ de me dire, il y a eu des grands films de boxe et des films sur lesquels on peut pas se confronter. C'est difficile de faire un film de boxe après tant de grands films. Donc je me dis peut-être qu'il faut essayer l'inverse. C'est-à-dire que la plupart des films de boxe ont été... Les combats, en tout cas, ont été construits par le montage. Un montage très rapide, très haché, et qui permet de croire à l'illusion de la boxe et du combat et du coup. Je me suis dit, il faut peut-être du coup faire l'inverse. C'est-à-dire tourner tous ces combats de boxe en plan séquence, qui n'avaient quasi jamais été faits. En tout cas, je n'ai pas trouvé de film dans lesquels ça avait été tourné de cette façon. Donc, je me dis, essayons. Peut-être que ça ne va pas marcher, parce que ça n'a jamais été fait. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer de travailler les scènes de boxe plus comme des scènes de comédie que comme des scènes d'action. C'est-à-dire que aussi l'acteur est à jouer pendant ces trois rounds. Sa peur, sa souffrance, l'adrénaline et tout ce qu'il peut avoir un peu sur ce ring.
Billy Moore est présent dans le film, pas dans son propre rôle, parce que depuis des années se sont écoulées. Est-ce qu'il était en plus là en tant que conseiller ?
Il a été conseiller sur le scénario, il nous a beaucoup aidé sur l'écriture comme un référent en permanence. Après, il n'a pas pu venir en Thaïlande où on a tourné parce qu'il était blacklisté. Il n'a pas fini sa peine en Thaïlande, donc il n'a pas pu venir. Il est venu à la fin du tournage, on a tourné une scène aux Philippines, dans la prison de Cebu, où là, il a eu accès, il a tourné sa scène, il a une petite scène dans le film. Mais il a toujours été très présent, on avait toujours recours à lui à chaque fois qu'on avait besoin par rapport à l'authenticité ou sa propre histoire et sa propre expérience dans cette prison.
Qu'est-ce qu'il pense du film ? Parce que entre son témoignage, qui devait être déjà une manière aussi de prendre du recul par rapport à ce qu'il a vécu, et puis votre projet, Jean-Stéphane Sauvert, de l'adapter au cinéma, c'est-à-dire de passer à la fiction, qu'est-ce qui reste ?
Mais je crois que ça l'a beaucoup ému, quoi. C'est-à-dire que le fait que ça soit très réaliste, et d'un coup, il est replongé à nouveau dans ce qu'il avait vécu. Il s'imaginait peut-être qu'à un moment, ça allait être un film, donc d'un coup, il y avait une distance, et d'un coup, je crois que le film l'a, par rapport à ça, bouleversé. C'est que la première fois qu'il a vu les rushs et tout, il s'est mis à pleurer. Et puis quand il a vu le film, quand on l'a montré à Cannes, il y a eu une vraie émotion. C'est-à-dire que d'un coup, on sentait que ça bouleversait des choses chez lui. Plus que peut-être si on avait fait un film de genre dans ce que ça veut dire, c'était peut-être plus classique et moins immersif et moins réaliste.
Vous travaillez sur quel film en ce moment, Jean-Stéphane Sauvert? Est-ce que ça sera un film tout aussi physique?
Ouais, je pense que ça m'intéresse d'essayer en tout cas de travailler sur un cinéma à nouveau immersif. Donc là, qui est à travers un photographe qui va dans différents pays et qui travaille sur la violence.
Donc des pays en guerre, je suppose?
Des pays en guerre, pas seulement. C'est-à-dire qu'une violence qui peut être une violence de gang, une violence de rituel et différentes formes de violence un peu sur lesquelles il s'interroge pour comprendre sa propre violence.
Et vous-même, vous interrogez de comment représenter la violence sans que ce soit un spectacle?
Ouais, parce que pour moi, c'est pas un spectacle. Je pense que si je parle de violence dans les films, c'est avant tout pour la combattre et pour essayer de la comprendre, donc de la ressentir, paradoxalement. Ça peut gêner parfois. Après, je pense que dans ce film, ce qui dérange peut-être plus, c'est pas spécialement la violence, c'est le côté anxiogène et le côté de réaliste du film, et qui est souvent comparé à la violence. Mais pour moi, c'est pas un film violent dans ce qu'il montre, en tout cas, quoi. C'est un film qui, peut avoir ce côté asphyxiant pour le spectateur à regarder, mais il y a des choses beaucoup plus violentes au cinéma que dans Une prière avant l'aube.
Une prière avant l'aube de Jean-Stéphane Sauvert qui sort aujourd'hui. Merci d'être passé ce matin nous en parler. Donc c'est deux films très physiques qui étaient au programme du Réveil culturel. À genoux les gars d'Antoine Desrosières. Et bien sûr, Une prière avant l'aube de Jean-Stéphane Sauvert. On va parler d'un cinéma plus intellectuel dans un instant avec Michel Simon.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et on retrouve Michel Simon. Bonjour,
bonjour
Michel.
Bonjour Toufik.
Alors, votre coup de cœur ce mois-ci, Michel Simon?
Le coup de cœur, c'est la couverture de Positive. Et je dois dire que j'étais un peu désarçonné par l'absence de presse sur ce film, parce que c'est un film absolument magnifique de Samuel Collardet, qui a eu le Deluc du premier film, qui est un cinéaste tout à fait rare, qui fait des films entre le documentaire et la fiction. Alors, j'ai lu, par exemple, dans un hebdomadaire, qui est intéressé par la visite d'un instituteur danois au Groenland qui doit enseigner à des enfants inuits. Mais je dis tout le monde, c'est un sujet magnifique, c'est-à-dire c'est leur rencontre.
Film France Culture, hein, Michel.
C'est un film France Culture, mais je suis heureux que France Culture soutienne ce film, parce que c'est un film comme tout ce qu'il fait, comme L'Apprenti, comme Tempête, c'est un film entre le documentaire et la fiction, c'est-à-dire c'est un instituteur qui part de Copenhague pour coloniser, si l'on veut, les Inuits, les enfants du Groenland, en leur apprenant le danois, et que finalement il se retrouve là-bas et il apprend la langue des Inuits, et ils découvrent une culture. Donc c'est un film comme Nanook de Flaherty ou L'Homme d'Aran. C'est un film absolument magnifique. On a fait une avant-première, il y avait 500 personnes, ça a été applaudi pendant 10 minutes. C'est un film magnifique, et je trouve qu'on lui a pas donné l'écho, tout simplement parce qu'il a été montré à Sundance et pas à Cannes. Il est sorti juste après Cannes, et du coup, tout le monde a les yeux retournés vers Cannes, et on ne parle plus des films qui sortent, qui n'ont rien à voir avec le festival. Et vraiment, j'encourage tous les auditeurs à aller le voir, parce que c'est un film magnifique, tourné au Groenland avec des paysages splendides et un rapport de culture tout à fait passionnant.
Un film que vous avez aimé, Michel Simon, et maintenant c'est repassé au film que vous avez aimé, détesté.
Pas détesté, mais c'est un film qui m'a beaucoup déçu, parce que j'avais beaucoup aimé leur premier film qui était La Semaine de la Critique, c'était Salvo. Alors La Semaine de la Critique a refait Rebelote, c'est-à-dire Sicilian Ghost Story, qui est un film sur la mafia, évidemment, en Sicile, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, sur deux adolescents, Luna et Giuseppe, et Giuseppe est kidnappé par la mafia. Et du coup, il se retrouve un peu par transmission de pensée dans des forêts, dans des lacs, dans des vallons. Il ne se rencontre pas.
Bah, résumé comme ça, ça donne envie, hein.
Ça donne envie, mais la greffe ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, évidemment, il y a eu Peter Ibbetson, il y a eu récemment ce film hongrois, Corps et âme. Mais là, je ne sais pas, la greffe du fantastique avec le réalisme, avec cette histoire de mafia et ces rencontres imaginaires, j'ai été très 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 déçu, j'ai trouvé ça très artificiel et très froid. Mais je voudrais tout de même, dans ce numéro, puisque vous en parliez de ce numéro, je voudrais tout de même signaler
le dossier,
un dossier, voilà, sur le singe
à l'écran.
Le singe à l'écran.
Il n'y aura pas de planète de singes cet été, mais c'est
pas une raison pour ne pas parler des singes à l'écran.
Il n'y a rien sur ce sujet et c'est passionnant. Il y a le prologue de Stanley Kubrick, évidemment, de 2001. Il y a Tarzan l'homme singe, il y a La planète des singes, il y a des documentaires sur les singes. Il y a King Kong, évidemment, avec un grand entretien avec Michel Lebris pour son grand roman Kong chez Grasset. Donc c'est un dossier vraiment, je trouve, tout à fait passionnant sur ce sujet, finalement très très peu traité, mais qui intéresse des millions de gens. Espérons qu'on vendra des millions d'exemplaires.
C'est le numéro d'été de... Oui, Max, c'est vrai, Max, mon amour.
Bien sûr. Oh. Et puis Ferreri aussi, Rêve de singe. Et puis la Donna Simia, la femme singe avec Annie Girardot. Voilà. Donc c'est un sujet très, très souvent traité.
C'est le dernier numéro de Positif. Le numéro de juin, mais c'est pas le numéro d'été, Michel Simon.
Le numéro d'été, c'est le film criminel. 60 pages sur le film criminel dans le monde entier. Et puis un grand entretien avec Nuri Bilge Ceylan, le grand cinéaste turc qui sort le 7 août son chef-d'œuvre, son nouveau chef-d'œuvre qui était au festival.
Vous n'êtes pas très nombreux à dire que c'est un chef-d'œuvre.
Si, Michel Simon. C'est un des cinq films. Ah non, excusez-moi. C'est un des cinq films préférés dans le film français par la critique française et un des cinq films préférés par la critique étrangère dans Screen. C'est-à-dire que, à part Kore-eda qui a eu la Palme d'Or, c'est le seul film qui fait l'unanimité des Français et des étrangers. Vous lisez trop Libération.
Merci, 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 cher Michel Simon. On se retrouve à la rentrée, on se retrouve en septembre.
Ben, j'espère bien.
Bel été à vous.
Ça tient à vous.
Merci beaucoup.